En direct du Forum d'orientation de Blois 2026, les élèves de l'établissement Camille Claudel et du collège Michel Bégon ont interviewé des professionnels et des étudiants. Ils sont allés à la rencontre de ceux qui tiennent les stands. Ils vous partagent aujourd'hui leur entretien sur nos ondes.
Alors bonjour, pour commencer je vais me présenter. Je m'appelle Benchouk Abdelkader, je viens du collège Michel Bégon.
Et moi c'est Hamson Gawi, moi aussi je viens du collège Michel Bégon.
Pouvez-vous répondre à nos questions s'il vous plaît ?
Oui, alors bonjour. Moi bonjour. Je suis Amandine Héroux, la chef de projet de la cité éducative.
Bon, en quoi consiste votre métier s'il vous plaît ?
Alors mon métier de chef de projet sur la cité éducative, c'est d'inviter tous les partenaires, tous les professionnels qui sont sur les territoires de la cité éducative, c'est-à-dire sur les quartiers. Quartier Quinière et les quartiers Nord, les acteurs éducatifs, à monter des projets ensemble. Et mon travail, c'est aussi d'aider le financement de ces projets. Et je travaille avec Christophe Julien, mon collègue, qui est aussi chef de projet Cité Éducative.
Quelle est la formation que vous avez suivie pour exercer votre métier ?
Alors, ça fait 2 ans que je fais ce travail et avant, j'ai eu des formations, mais qui n'étaient pas liées à ce travail-là. J'ai travaillé pendant 20 ans dans le médico-social, donc dans le secteur du handicap. J'ai été éducatrice spécialisée et puis après, j'ai passé un master de direction des organisations médico-sociales pour diriger des établissements médico-sociaux. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai voulu changer de secteur et du coup, je suis venue sur la cité éducative.
Ok, merci madame. Est-ce que vous aimez beaucoup votre travail ou pas, s'il vous plaît ?
J'aime beaucoup mon travail parce que je rencontre plein de personnes tout le temps, des jeunes de collège, des enfants, des enseignants, des associations. Et on monte des projets pour aider les enfants et les jeunes dans leur réussite éducative. Et ça, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur.
Quel est le salaire moyen pour votre profession ?
Alors, quand on est chef de projet, on va dire que le salaire d'un débutant, de quelqu'un qui n'aurait pas d'expérience, c'est à peu près 1800 euros. Et après, pour quelqu'un qui a de l'expérience, on va dire autour de 2500. Ça dépend en fait du parcours. Ça dépend de ce que vous avez fait avant, si vous êtes débutant, de vos diplômes et de là où vous travaillez.
Ok, merci beaucoup madame. Avez-vous d'autres projets professionnels ?
Alors, j'ai pas d'autres projets professionnels puisque ça fait 2 ans que je suis sur ce poste-là, donc c'est encore nouveau pour moi. Oui. Mais j'espère continuer à développer la cité éducative et à mener des projets qui répondent aux besoins des enfants et des jeunes des quartiers.
Oui. Vous comptez y rester longtemps ?
J'aimerais bien rester encore un petit peu sur. Mais je suis en contrat en CDD, donc ça veut dire que c'est pas un contrat qui dure tout le temps. Donc oui, j'espère, j'ai encore 1 an de contrat et j'espère qu'après je pourrai continuer.
Oui, continuer, ok.
Ce travail, il consiste vraiment à faire quoi plutôt ?
En fait, c'est un travail d'animation du territoire. Donc avec mon collègue Christophe, on rencontre les associations, les enseignants, on met en place des temps pour qu'ils puissent discuter ensemble et faire des projets en fait. Pour vous donner un exemple qui peut vous parler, sur le collège Bégon, on a accompagné un projet qui s'appelle les cadets de la réussite avec le SDIS. Alors je ne sais pas si vous connaissez.
Oui, j'en fais partie.
Tu en fais partie, voilà. Donc en fait ça c'est accompagné et financé par la cité éducative. On a un autre projet qui s'appelle les ambassadeurs de la citoyenneté aussi avec la Ligue de l'enseignement et ça c'est aussi un projet qui est financé par la cité éducative. Et puis vous rencontrez aussi la chambre des métiers et de l'artisanat en fait tous les ans. Ils viennent vous présenter en fait leur métier et ça c'est aussi financé par la cité éducative pour que vous ça vous aide à vous orienter dans votre insertion professionnelle.
Et sans la cité éducative par exemple tout ce que vous venez de dire, les projets, etc., ils peuvent rien faire.
Alors, les collèges financent aussi des projets, la région, enfin voilà. Il y a d'autres sources de financement, la ville aussi, mais ça amène quand même une enveloppe financière pas négligeable supplémentaire.
Ok, merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Je vous en prie.
Je vous souhaite une merveilleuse journée.
Merci, vous aussi.
Merci, au revoir.
Merci.
Au revoir.
Claudel.
Ambre Crézel, Camille Claudel.
Bonjour.
Bonjour.
Comment vous appelez-vous ?
Donc, je m'appelle Arnaud Giacometti, et je suis professeur d'informatique donc sur le site de Blois.
D'accord. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi votre métier il consiste, enfin plutôt la formation que vous...
Donc la formation qu'on propose, c'est ce qu'on appelle une licence générale. C'est-à-dire que pendant ces 3 années d'études, vous allez vraiment étudier, on va dire, l'ensemble, on va dire, des domaines que constitue l'informatique, parce que l'informatique, c'est un domaine qui est très, très, très vaste. L'informatique sert, comme vous le voyez, enfin, au jour le jour, à beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, derrière, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de métiers. Mais comme c'est une licence générale, vraiment, le but, c'est de vous montrer un peu tout ce qui existe en informatique. Et puis après, cette licence générale, c'est là, en fonction de ce qui vous a le plus intéressé, que vous allez pouvoir dire, moi, je veux me spécialiser en traitement d'images, de vidéos. Et donc, je vais chercher un master qui vraiment porte sur cette spécialité-là. Donc, nos étudiants, après la licence, certains restent à Blois parce qu'on a un master à Blois, qui est en sciences des données. Mais d'autres vont ailleurs parce que c'est une autre spécialité qui les intéresse.
Ok. Et quelles sont les compétences indispensables pour faire ce métier ?
Alors, quelles sont les compétences attendues ? Alors, pour certains, vous avez déjà fait un petit peu d'informatique au lycée maintenant, parce qu'il y a quand même une spécialité qui est proposée. C'est un plus de l'avoir fait. C'est pas une obligation du tout, parce qu'on va dire on repart quelque part de zéro en première année. Après, il faut être conscient quand même que informatique et mathématiques, il y a des liens entre les deux disciplines. Donc en première année, il y a des mathématiques. Donc c'est vraiment si on a des grosses difficultés en mathématiques, ça va être difficile. Après, il ne faut pas forcément avoir d'excellents résultats. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que la licence, si on veut, on peut la faire en 4 ans plutôt que 3 années. Notamment si justement on sent qu'au début les mathématiques ça n'a pas été évident. Donc on essaye de faire de personnaliser un peu le parcours de l'étudiant et étudiante pour maximiser ses chances de réussite. Et puis quelque chose qui pour moi est important, c'est aussi les langues étrangères. Donc il y a une présence de l'enseignement de l'anglais qui est assez notable parce qu'on pousse en plus nos étudiants à avoir après des expériences à travers Erasmus. De mobilité, moi je trouve que c'est important. J'ai été en charge des relations internationales à l'université de Tours et je trouve qu'une expérience à l'étranger, c'est toujours un plus pour sa vie d'après, professionnelle et pas seulement d'ailleurs.
D'accord. Et est-ce que avant d'avoir enseigné ce métier, est-ce que vous avez exercé plus spécifiquement
Alors en fait, moi au départ, j'ai une formation d'ingénieur. D'ingénieur généraliste. Et en fait, j'avais fait assez peu d'informatique finalement pendant mon parcours. Et j'étais du coup un peu déçu de ne pas avoir fait plus d'informatique pendant mes études. Donc en fait, après mes études, j'ai décidé de faire une thèse de doctorat. Et justement en informatique pour creuser un peu le sujet. Parce que plus, donc, ce qui m'intéressait à l'époque, c'était l'intelligence artificielle, donc, qui est aujourd'hui très, très, très à la mode. Et donc là, j'ai eu 3 années vraiment assez passionnantes. Voilà, j'ai pu creuser ce domaine. Et puis après, en fait, mon expérience après mon doctorat, c'est, on va dire, plutôt de l'expérience dans le domaine de la recherche. Donc j'ai jamais travaillé, on va dire, vraiment dans le privé, mais j'ai travaillé, pas à l'étranger, dans un organisme qui s'appelle l'IRD, Burkina Faso, pour aider des gens qui n'étaient pas informaticiens à développer des applications qui pouvaient les aider dans leur travail. Voilà. Et puis après, j'ai candidaté pour entrer à l'université. Après, ce qui est important, quand même, je n'ai pas dit, c'est que dans notre licence, c'est une licence générale, mais quand même qui est très orientée, on va dire, vers l'univers de l'entreprise. Donc on a des intervenants qui sont de l'entreprise. À la fin de la licence, même si ce n'est pas une licence pro, il y a un stage qui est obligatoire, donc, où les étudiants doivent se confronter un petit peu avec ce qu'est une entreprise et comment ça fonctionne. Et puis notre master maintenant à Blois, donc, qui suit la licence, c'est un master qui est proposé entièrement en alternance et à l'apprentissage.
Est-ce que vous travaillez plutôt seul dans ce métier ou c'est un travail d'équipe ?
Alors à Blois, on a une petite famille au département d'informatique. Donc on travaille vraiment beaucoup en équipe. Donc c'est rare qu'on ait même, on va dire, seul la charge de tout un enseignement. En général, on est plusieurs. Donc parce que par exemple, il y a plusieurs groupes de travaux dirigés, trois pratiques. Donc voilà, on travaille à plusieurs. Donc il y a un vrai travail d'équipe qui se retrouve pas forcément partout et dans tous les départements. Donc voilà, quand on est là aussi pas un très gros département, on se connaît très bien depuis très longtemps. On a c'est assez notable, mais on a en plein un nouveau collègue qui a été recruté, qui est quelqu'un qui a fait sa licence d'informatique à Blois, en fait, donc qui a fait tout son cursus et puis finalement à la fin qui se retrouve enseignant chez nous. Bon, ce qui montre aussi et du coup facilite, on va dire, les liens avec les étudiants, parce que lui-même a été étudiant au même endroit avec et on a été parfois son prof.
D'accord. Mais du coup, étant donné que quand on est dans un métier spécifique dans ça, est-ce que faut faire une formation pour devenir enseignant ? Enfin, est-ce qu'il a fallu que...
Alors moi, donc quand on est enseignant à l'université, ce qui est spécifique, c'est que pour devenir enseignant, donc chercheur, parce qu'on est à la fois enseignant et chercheur, donc ça veut dire qu'après sa licence et son master, il faut aussi préparer un doctorat. Donc le niveau de formation, on va dire, être diplôme le plus élevé, quelque chose qui se prépare en 3 ans, qui peut se préparer en relation avec des entreprises. Parfois, c'est un financement qui est mixte État-entreprise. Et puis, à l'issue de ce doctorat, après, on candidate sur des postes pour entrer à l'université. Et, bon, c'est un concours qu'on obtient ou pas, c'est un peu compétitif. Mais dans la période à laquelle on est aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que l'informatique a eu des recrutements très, très, très nombreux à un moment donné, quand l'informatique s'est développée. Et là, il va y avoir un nombre de départs à la retraite là, dans les 5 années qui viennent, qui va être extrêmement important. Il va y avoir un besoin de recrutement et de remplacement qui va être très élevé. Donc il va y avoir pas mal là aussi d'opportunités pour les gens que ça intéresse. Et puis dans les collègues, là, par exemple dans le département qu'on a, par rapport à la question que vous m'avez posée avant, on a un collègue par exemple qui, après ses études d'ingénieur, lui, il est allé dans le privé. Et après, on va dire 3-4 années d'expérience dans le privé, il s'est dit j'ai envie de retourner, finalement, de faire de l'enseignement. Et donc, il est revenu à l'enseignement. Moi, l'enseignement, ça a été pendant, on va dire, très vite, quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. C'était lié au fait que mes parents étaient aussi enseignants, peut-être. Ça a peut-être joué, mais voilà. Quand je suis parti au Burkina Faso, par exemple, j'ai eu l'opportunité d'enseigner dans ce qui était la première école d'ingénieurs en informatique, à Ouagadougou. Enfin, voilà, j'ai adoré cette première expérience. Donc, j'aime bien transmettre aux jeunes, ce que j'ai appris.
Ok. Si c'était à refaire, referez-vous le même choix professionnel ?
Oui, je pense que je ferais la même chose. Après, il y a parfois des choses qui se dessinent un peu. C'est un peu le hasard. C'est vrai que moi, à la fin de mon école d'ingénieur, j'ai voulu continuer à faire de l'informatique parce que j'ai eu de la chance de tomber sur un prof qui était passionnant, qui m'a vraiment envie d'aller plus loin dans ce domaine-là. Je dis pas si j'étais tombé sur un autre prof passionnant dans une autre discipline. Moi, je suis quelqu'un de très, très curieux. Donc, par exemple, là, aujourd'hui, à l'université, j'enseigne l'informatique, mais j'enseigne aussi la transition écologique et sociale, donc un domaine complètement différent. D'ailleurs, qui est présent dans notre licence. Dès la première année, il y a un cours sur les enjeux de transition et sociaux en lien avec l'informatique. Donc, un cours qui est un peu à part, mais qu'ont beaucoup apprécié cette année nos étudiants, parce que c'est pour montrer que l'informatique, c'est pas quelque chose qui est refermé sur lui-même, qui est un peu ouvert sur le monde, et qu'il y a plein de questions, on va dire, pas que techniques à se poser, mais aussi des questions éthiques et de responsabilité, quel rôle on peut jouer dans la société.
D'accord. Moi, je me demandais, vu que l'informatique, vous disiez que c'était très vaste, est-ce que... on va le retrouver sur beaucoup de corps de métier. Par exemple, vous me disiez qu'en tant qu'ingénieur, on faisait de l'informatique, mais par exemple, dans l'armée, dans tout ce qui est...
Alors, l'informatique, comme vous savez, elle est aujourd'hui présente un peu partout, dans tous les domaines. Il n'y a pas beaucoup de domaines où elle ne joue pas un rôle. Donc quand on devient ingénieur en informatique, alors souvent les ingénieurs, on va dire juniors, les 3-4 premières années peuvent avoir des métiers qui sont assez techniques. Voilà, ils vont continuer à faire du codage, à développer des applications, voilà. Mais souvent, après, en fait, au bout de 3-4 ans, leur métier, sauf si vraiment c'est la technique qui les intéresse et ils veulent continuer à se spécialiser, etc., c'est des gens qui vont plutôt devenir des gestionnaires de projet. Dont le rôle, ça va être de discuter avec des clients qui ont des besoins. Voilà. Et qui donc ils vont être là pour écouter ces besoins, ce qu'ils sont, essayer de les traduire, voilà, comment on pourrait y répondre, avec quel outil, avec quelle technique, voilà, quelles questions ça pose, quelles données on va avoir besoin de l'entreprise. Et donc ça s'applique ça à tous les domaines. Et là, le rôle de l'informaticien, c'est de. Et ce qui va faire sa qualité, c'est d'arriver à bien dialoguer avec ses clients, quel que soit le domaine, pour bien comprendre ce que sont leurs besoins, puis après aller voir les juniors pour commencer à développer des prototypes, les montrer aux clients, est-ce que c'est ça que vous attendez, quelles sont les fonctions qui manquent, qui pourraient être intéressantes pour vous. Donc c'est vraiment un travail de dialogue, et dans ce travail de dialogue, après ce qui peut faire la caractéristique de quelqu'un, c'est d'être plus spécialisé pour le développement d'applications dans le domaine militaire, ou dans le domaine bancaire, ou dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation. Donc après, on peut avoir une sorte de double spécialité qui est, on connaît la technique informatique, et puis on connaît un autre domaine qui n'est pas le sien, et on réussit à faire ce pont entre les deux. Donc c'est, voilà.
Bah écoutez, malheureusement, j'ai plus de questions à vous poser, parce que vous avez déjà répondu à toutes ces questions.
Encore une.
Dites-moi, qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce métier
Quand on est donc à l'université, on est enseignant et chercheur, donc ce sont deux fonctions qui sont liées, parce que parfois la recherche qu'on fait, elle alimente les enseignements qu'on fait, mais moi, ce qui reste ma motivation première, c'est l'enseignement, c'est le contact avec les étudiants. Et dans ce rôle de transmission, c'est vraiment ça qui me motive le plus. C'est, je trouve ça hyper agréable d'être avec des jeunes. Je suis quelqu'un de ma génération qui a certaines inquiétudes par rapport, à l'avenir. Voilà, il y a des enjeux qui sont devant nous, qui sont pas faciles, mais je reste, convaincu que c'est par l'action qu'on peut changer les choses. Et puis aujourd'hui, cette action, on peut la mener qu'avec les jeunes, et c'est avec les jeunes qu'il faut qu'on travaille. Il y a un travail intergénérationnel à faire qui est hyper important. Ce travail intergénérationnel, c'est ça qui me motive.
Merci beaucoup. C'était très intéressant.
Très intéressant.
Merci à vous. Merci. Et puis peut-être au plaisir de vous voir aux portes ouvertes à Blois, 6 et 7 février. Parce que donc, il y a des femmes qui sont dans notre cursus. Elles sont nombreuses. Et vous pourrez en plus en rencontrer, je pense, qui seront là pour vous accueillir.
C'est cool.
Au revoir. Puis merci pour cet échange et les questions que vous m'avez posées.
Au revoir.
Camille Claudel.
Ilan Bouvet, Camille Claudel.
Bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions. Nous allons vous interroger sur votre métier. Déjà, pouvez-vous commencer par vous présenter ?
Alors, bonjour à tous les deux. Donc, moi, je m'appelle Émilie. Je travaille pour une association d'éducation populaire qui s'appelle la Ligue de l'Enseignement. Et au sein de la Ligue de l'Enseignement, je m'occupe de jeunes qui s'engagent dans un volontariat en service civique.
D'accord, et que faites-vous exactement au cours de votre métier ? Vous aidez les jeunes du coup ? Et comment le faites-vous ?
Le service civique, c'est une de mes principales missions. Dans le cadre de ces missions-là, en tout cas, j'accompagne aussi bien des jeunes à trouver une mission. J'accompagne également des associations qui veulent accueillir des jeunes en mission de service civique. et quand ça matche bien, quand ça matche pas trop. En fait, je suis là pour faire de l'intermédiation et pour faire du double tutorat pour pouvoir accompagner le jeune dans son projet d'avenir, c'est-à-dire après le service civique, parce que là je suis en pause d'études, parce que là je suis en pleine réflexion, parce que je suis en décrochage scolaire, qu'est-ce que je fais après mon service civique pour pas que le jeune se retrouve sans solution juste après son service civique.
Et quel a été votre parcours ?
Alors, moi, j'ai un parcours où j'ai commencé par un... Je pensais vraiment pas faire ce métier avant, en tout cas. Donc, j'ai fait un bac STG. Donc, ça doit être un bac STMG. Enfin, c'est passé par pas mal de noms, mais plutôt dans le commerce, en tout cas. Et quand j'ai passé mon bac à 17 ans, j'ai fait la formation du BAFA, donc le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, pour travailler avec des enfants. En tout cas, je pensais que ça allait être que pendant les vacances. Et ça a été une vraie révélation pour moi. Et juste après le bac, je suis partie en DUT. Donc maintenant, c'est un BUT, un but. Donc je suis partie en DUT carrière sociale, option animation sociale et socioculturelle, parce que j'ai vraiment voulu faire que l'animation devienne mon métier professionnel, en tout cas. Et j'avais vraiment cette petite fibre du social où j'ai travaillé avec des personnes en situation de handicap aussi. J'ai travaillé aussi en structure sociale. Voilà, donc du coup, j'ai fait ce DUT. J'ai été directrice d'un accueil de loisirs et périscolaires pendant plusieurs années. J'ai fait une pause parce que l'animation me convenait plus, en tout cas. J'ai fait une pause pour reprendre des études et pour être assistante sociale. Il y a des liens, en tout cas, qui se font entre les deux. Et en fait, je me suis rendu compte que non, ça ne me plaisait pas et c'était vraiment l'animation qui m'intéressait. Et je suis repartie dans l'enfance pour être coordinatrice de structure enfance pour l'association de la Ligue de l'Enseignement. Et aujourd'hui, donc, du coup, j'ai changé de poste au sein de cette association et je m'occupe plutôt de la jeunesse, du coup, des volontaires en service civique. Je m'occupe également des jeunes de moins de 18 ans qui souhaitent se former en association parce qu'ils ont des envies, des idées, enfin voilà. Et donc du coup, de les accompagner à se former à être une association. Et je m'occupe également de collégiens autour des questions de citoyenneté et d'égalité.
Vous dites avoir fait d'abord des premières études sans rester dedans, enfin, sans faire un métier dedans. Vous avez continué donc avec votre BAFA, etc. Et... par la suite, est-ce que donc votre métier vous plaît particulièrement et quels points vous trouvez les meilleurs dans celui-ci ?
Alors, ce que je fais aujourd'hui me plaît. Il faut savoir qu'en fait, on ne fait pas le même métier toute sa vie. Enfin, ça, c'était il y a plusieurs années. Et l'ensemble des métiers là, que j'ai pu faire, parce qu'il y a des petits bouts de parcours de vie que je ne vous ai pas non plus dit, où j'ai travaillé aussi en addictologie, par exemple. Mais tout ça, ça a du lien, en tout cas. Parce que c'est faire du lien, le relationnel en tout cas, il y a le social aussi, c'est savoir être à l'écoute et pas mal de bienveillance aussi. Donc oui, aujourd'hui c'est complètement différent, néanmoins ces qualités là que je vous ai exposées, en tout cas j'en ai besoin au quotidien dans mon métier d'aujourd'hui.
À quoi ressemble une journée type dans votre métier ?
Alors il n'y a pas de journée type, enfin... Alors, c'est pas comme si j'étais en structure d'accueil jeune, où là, oui, il n'y a vraiment pas de journée type et ils savent vraiment pas, les animateurs en tout cas, ce qui va se présenter. Moi, je sais quand même plus ou moins ce qui va se présenter à moi en tout cas, mais ce que je disais, enfin, aujourd'hui, je suis ici, je suis interrogée par vous en tout cas. Cet après-midi, je m'en vais en structure d'accueil. Autour du service civique. Bon, hier, je suis restée au bureau, en fait. Je suis restée au bureau. Mais ma journée type, ça reste des mails, ça reste des coups de téléphone, ça reste de la coordination, surtout, et de rester disponible, en tout cas, pour des urgences ou pour conseiller les jeunes, en tout cas. Mais pas de journée type.
Est-ce que vous pensez... Enfin, vous dites avoir changé beaucoup de parcours, beaucoup de métiers. Est-ce que vous voyez encore dans 10 ans, dans 20 ans, encore dans ce métier ou pouvoir changer votre... Est-ce que vous voulez évoluer ou pouvoir changer de métier suite à ça ?
Alors, 10 ans, 20 ans, c'est dans très très longtemps. Oui, je pense sincèrement que je ne serai plus là où je suis aujourd'hui. Peut-être que je serai encore dans la même association et que j'aurai évolué et changé de poste. Je sais pas, enfin ça, je sais pas du tout. Aujourd'hui, en fait, l'engagement des jeunes est mal vu par le gouvernement. En tout cas, n'est pas valorisé. Il est même défavorisé par le gouvernement. Il faut savoir que là, dans les missions de service civique, le budget est bloqué. On ne peut pas faire de mission pour le moment, en tout cas, et que le nombre de missions nationales va être diminué. Donc oui, il va y avoir un impact, moi, sur ma mission, parce que ça veut dire que je vais accueillir moins de jeunes. Donc ma mission, elle va forcément évoluer. Et j'ai besoin, en tout cas, moi, de faire un métier qui évolue. De pas 10 ans faire exactement la même tâche, ça ne m'intéresse pas. J'ai besoin de me nourrir, en tout cas, d'apprendre. Donc je ne sais pas ce qu'il en sera de mon métier dans 10 ans. Je ne sais pas si je serai encore là dans 10 ans. Mais en tout cas, je serai toujours dans la même filière, on va dire, donc autour soit de l'animation et soit du social.
Merci beaucoup de répondre à nos questions. Bonne journée.
Bonne journée, merci à vous.
Merci.
Je vais me présenter, je m'appelle Benchouk Abdelkader, je suis élève de 3e au collège Michel Bégon.
Et moi je suis à Armstrong Yahweh, je suis donc aussi dans le même collège que Kader.
Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ?
Eh bien enchanté, je m'appelle Lucas Patron, je suis chef de projet contrat de ville et je travaille pour la ville de Blois.
En quoi consiste votre métier s'il vous plaît ?
Eh bien, du coup, je pilote le contrat de ville. Le contrat de ville, c'est pas forcément très connu des habitants, mais c'est une politique publique qui vise à réduire les inégalités dans les quartiers.
C'est-à-dire quoi ?
Eh bien, tu vois, nous, à Blois, il y a deux quartiers prioritaires. Juste avant, je sais que vous avez vu Christophe et Amandine. Donc, eux, ce sont mes collègues qui travaillent vraiment sur le volet un petit peu éducation. Mmh. Et moi, en gros, mon travail, je travaille avec différents partenaires, des associations, l'État, le département, etc. Et on finance des associations, on finance des actions pour essayer de réduire des inégalités sur certains quartiers. Donc à Blois, on a le quartier Quinière et on a les quartiers Nord. Et on va financer différentes actions, que ce soit en lien avec l'accès du sport, l'accès à la culture, essayer de développer, par exemple, des jardins partagés. Enfin voilà, faire en sorte d'améliorer les conditions de vie des habitants pour qu'ils se sentent bien et vivent dans un bon environnement.
Ok, j'aurais une question. Qu'est-ce que les habitants, ils ont quoi ? Ils ont quoi que les quartiers, ils n'ont pas ? Que les autres quartiers, ils n'ont pas ?
C'est plus à l'inverse. C'est qu'est-ce que ces habitants... Enfin, il y a un taux d'inégalité qui est quand même assez important dans les quartiers prioritaires. Donc, c'est des personnes qui vivent sous un seuil de pauvreté. Donc, okay. Ça veut dire que par mois, ils ont moins d'argent que tous les autres quartiers de la ville de Blois. C'est des personnes qui ont peut-être moins facilement accès à l'emploi parce qu'ils ont des parcours de vie peut-être un peu compliqués. Donc, du coup, il y en a beaucoup qui ne travaillent pas, malheureusement. Et toi, c'est un peu une spirale négative qui s'enferme autour de ces habitants. T'en as qui ne se travaillent pas. Donc du coup, ils se disent « bah mince, je travaille pas, je suis un boulet pour la société », en gros, alors que pas du tout. Donc nous, on essaye justement, via le financement d'associations, de dire à ces personnes « mais non, en fait, ayez confiance en vous, vous avez plein de qualités pour essayer, par exemple, de retrouver un emploi ». Donc ça, je te dis juste sur la question de l'emploi, mais c'est la même chose, par exemple, sur la question des droits. Enfin, tu sais, on a Pôle emploi, enfin France Travail, on a la CAF, on a plein de choses comme ça. Et il y a plein d'habitants qui ne sont pas au courant qu'ils ont le droit d'avoir ces droits, parce que c'est vraiment un droit de la France.
Oui, vous les
aidez. Voilà, c'est ça. Donc l'idée, c'est vraiment de les aider pour qu'eux puissent avoir une meilleure qualité de vie, qu'ils se sentent mieux dans le quartier, enfin qu'ils se sentent mieux en tant qu'être humain, et qu'ils se sentent aussi bien insérés avec le reste de la ville de Blois. Enfin, pour montrer qu'il n'y a pas un quartier ici qui est vraiment enclavé, enfermé sur lui-même comparé aux autres quartiers. L'idée, c'est vraiment de mélanger aussi la population pour que tout le monde se sente à sa place.
En gros, de les aider à relever le niveau de...
leur qualité de vie.
Ouais, voilà.
Ouais, exactement, c'est ça.
Quelle formation vous avez fait pour faire ce travail ?
Ben moi, j'ai fait un collège classique comme vous. Après, j'ai fait un lycée. Donc, j'ai fait le lycée Camille Claudel à Blois. Mmh. Après, je suis parti à Tours pour faire une université de géographie, donc d'aménagement du territoire. Et après, j'ai fait un master, donc c'est la suite logique. Enfin, tu fais bac plus 3, après bac plus 5, c'est le master. Et moi, j'avais la chance parce que ma deuxième année de master, donc mon bac plus 5, il y avait une alternance. Donc j'étais 2 semaines en cours, 2 semaines dans une entreprise. Et du coup, la ville de Blois a recherché un alternant à ce moment-là. Donc moi, j'ai candidaté, j'ai été pris. Et le hasard a fait que la personne qui s'occupait de moi, elle est partie. Enfin, c'était la fin de son contrat. Donc du coup, je l'ai remplacé. Donc comme ça, ça fait une suite logique et j'ai eu cette chance-là. Donc,
Okay. Ok, merci. Est-ce que c'est le seul métier que vous avez exercé ?
Ouais, bah du fait que je suis encore un peu jeune, j'ai 27 ans, ça fait combien de temps ? 2 ans ? 3 ans ? Ouais, 3 ans que je travaille à la ville de Blois.
Okay.
Donc ouais, c'est vraiment mon premier métier.
Est-ce que vous aimez votre métier ? Si oui, pourquoi ?
Ouais, moi j'aime beaucoup mon métier pour différentes raisons. Déjà de 1, c'est jamais les mêmes journées. Enfin, une journée, je vais travailler avec des habitants, on va travailler sur une thématique bien précise. Le lendemain, je travaille avec une association, enfin admettons sur du sport. Le surlendemain, je travaille sur l'emploi. Donc c'est vraiment jamais les mêmes journées. Après, ce qui est cool aussi dans mon métier, c'est que je rencontre plein de personnes de niveaux différents. Enfin, un jour, je vais travailler par exemple avec le maire. le lendemain une association, le surlendemain avec des gens de l'État, donc c'est vraiment diversifié. Et ce que j'aime beaucoup moi dans mon travail, c'est que ça a un réel impact sur la vie des gens. Enfin, ce que je fais, ça change vraiment, enfin, du moins on essaye que ça change positivement la vie et le quotidien des gens, comme je vous expliquais tout à l'heure. Et ça, je trouve que c'est hyper important.
En gros, vous pouvez varier avec qui vous êtes et dans quoi vous travaillez.
Ouais, c'est ça. Un jour, je vais travailler sur le sport. Le lendemain, je vais travailler sur, je sais pas, créer des jardins. Oui. Après, sur du théâtre.
C'est vous qui choisissez avec qui vous travaillez.
Bah oui et non. Enfin, toi, nous, tout à l'heure, je disais qu'on essayait de réduire les inégalités. Bon, c'est un peu technique parce que ma politique publique, elle est un peu difficile à comprendre. Mais en gros, nous, on va financer des associations pour pouvoir essayer d'améliorer la qualité de vie des gens. Et donc, du coup, c'est les associations qui répondent, par exemple, à nous des demandes que l'on fait. Donc, si l'association a envie de travailler avec nous, envie de travailler pour les habitants, ben, on va travailler ensemble et on va faire en sorte de mettre des choses en place avec les bailleurs sociaux, enfin voilà, avec toutes les personnes qui gravitent autour des quartiers.
Ok, merci beaucoup. Quel est le salaire moyen de cette profession environ ?
Bah moi, vu que c'est du public, c'est dans la fonction publique, on commence à un niveau et puis après, genre tous les 2 ans, 3 ans, on est peut-être augmenté de 100 euros, 200 euros. Donc moi là aujourd'hui en début de carrière, toi j'étais à... Donc faut bien différencier le net et le brut. Donc le net, c'est vraiment ce qui te revient au début du mois dans les poches. Moi je devais être à 1900 et quelques, et là aujourd'hui, bah, vu que ça fait 3 ans, je suis à 2100 net. Et tu vois, ça se trouve dans 20 ans, je serais peut-être pas loin de 3000, je sais pas du tout. Mais ça suit les grilles et c'est la même chose partout pour tous les agents en France qui travaillent pour des mairies.
Avez-vous d'autres projets professionnels ?
Là tout de suite non, parce que ça fait que 3 ans, vu que ça fait pas longtemps que je travaille. Mais je pense que par la suite, ouais, j'aurai d'autres projets professionnels qui vont naître avec des envies, suivant les rencontres, suivant les opportunités. Et puis nous, notre génération, et puis la vôtre aussi, il n'y a pas beaucoup d'écart entre nous. Si plus tard, vous allez faire plusieurs métiers, enfin, vous allez commencer par un truc, au bout de 5-6 ans, on en a marre, on change. Et puis, c'est notre génération qui veut ça aussi.
Okay, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci à vous.
Au revoir.
Direct du forum de l'orientation. Pour commencer, bonjour, je m'appelle Elif, je suis élève de 3e au collège Michel Bégon.
Et moi c'est Ayad de collège Michel Bégon aussi.
Et merci de bien vouloir répondre à nos questions. Pouvez-vous s'il vous plaît vous présenter ?
Bonjour, je suis Clémentine Copin, je suis coordinatrice pour le conseil départemental de l'accès au droit du Loir-et-Cher.
Enchantée. D'accord. Enchantée. En quoi consiste exactement votre métier ?
Alors, peut-être pour juste mettre un peu de contexte au niveau du CDAD 41 et nos missions, rapidement. Le CDAD 41, donc on est sous l'égide du ministère de la Justice, c'est-à-dire que c'est à nous de permettre l'accès au droit dans le département du 41. Et comment on permet l'accès au droit ? Vous avez des droits, toute personne, les habitants du Loir-et-Cher ont des droits. Et comment on permet l'accès aux droits ? Donc on va dire qu'on a 3 axes principaux d'intervention. Un premier axe, où si vous avez une question juridique, je ne sais pas, sur peut-être votre futur contrat de travail, sur votre future famille, eh bien nous, on est là pour répondre à ces questions-là. Donc vous allez à un lieu qui s'appelle le Pont Justice, et l'agent d'accueil vous renverra sûrement vers un professionnel du droit, donc vers un avocat, un notaire, des juristes, des associations de droit de la consommation, etc. Donc ça, c'est le premier versant de nos actes d'intervention. Mais on a aussi d'autres axes, notamment des actions envers les jeunes. Par exemple, bah, voilà, aujourd'hui, on vous informe par rapport au métier de la justice et notamment l'accès au droit. Mais finalement, on fait plein d'interventions dans les écoles pour sensibiliser, par exemple, sur les violences faites aux femmes, sur le harcèlement, sur le numérique. Enfin, voilà, plein de thématiques juridiques qui permettent de vous informer et de vous sensibiliser. Et puis, par exemple, aussi, on a des écoles qui viennent au tribunal judiciaire de Blois et qui viennent assister aux audiences correctionnelles. Nous, par la suite, on les accueille et puis on fait un petit débriefing des audiences qu'ils ont pu voir et puis on présente la justice avec nos jeux de plateau, etc. Et puis finalement, en fait, on informe et on sensibilise tous les habitants du Loir-et-Cher. Donc finalement, on organise plein de tables rondes, des conférences, des escape games par exemple, des ciné-débats qui permettent finalement d'informer les habitants du Loir-et-Cher d'une manière un peu plus ludique qu'on peut faire dans le cadre des permanences juridiques. Et donc, moi, par rapport à mes fonctions, moi, je suis coordinatrice du CDAD 41. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, je suis responsable de la structure. Pour préciser, on est deux salariés. Il y a moi, la coordinatrice. Il y a aussi la juriste qui fait toutes les permanences dans nos points justice, Nathalie Crétois. Et puis, on a aussi notre président. Notre président, c'est aussi le président du tribunal judiciaire de Blois. Donc, qui préside voilà, notre groupement. Et donc, ma mission, c'est de permettre à toute personne d'avoir accès à ses droits. Donc, finalement, je gère, on va dire, un peu tout l'aspect du CDAD, donc l'aspect administratif, l'aspect organisation des actions que j'ai pu vous citer, coordonner tous nos points de justice pour que l'information soit uniforme partout sur le département, pour vous préciser les factures, les demandes de subventions. Après, je vais assister aux audiences correctionnelles, parfois avec les jeunes, parfois je vais dans les écoles. Enfin, c'est vraiment mon métier. En fait, il faut être vraiment polyvalent. Et je touche finalement un peu tout à tous, même si on a un statut assez particulier. On n'est pas une entreprise, mais c'est comme si c'était un peu ça. Donc, je gère un peu tous ces aspects-là.
D'accord. Quelle formation professionnelle avez-vous suivie pour exercer ce métier ?
Alors, accès au droit, donc le droit, donc forcément obligé de forcément faire des études de droit. Donc après l'obtention de mon bac général, j'ai fait une licence de droit privé pendant 3 ans, donc ça bac plus 3. Et après, par la suite, je voulais m'orienter vers la magistrature, donc j'ai fait un master en plus, donc un master assez généraliste. Mais qui est quand même spécialisé en droit privé. Donc, quand même, j'avais des grosses matières en droit privé et en droit pénal. Et puis, parfois, j'avais aussi pas mal de cours pour compléter tout ce qu'on voit en droit privé et en droit pénal. Par exemple, je fais du droit des étrangers, droit des assurances, droit des entreprises en difficulté. Donc, on va dire que c'est un master assez généraliste. Et puis après, j'ai vu le poste de juriste au début. Et j'ai postulé dessus et puis finalement j'ai monté petit à petit les échelons pour après être coordinatrice. Donc voilà, la formation, c'est surtout une formation en droit et mon poste, il faut au minimum un master pour pouvoir y accéder.
Est-ce le seul métier que vous avez exercé ?
Comment ?
Est-ce le seul métier que vous avez exercé ?
Alors oui, je n'ai pas non plus on va dire énormément d'expérience dans ma vie, vu que pour l'instant j'ai que 27 ans. Mais avant d'être coordinatrice, j'étais quand même juriste. J'ai exercé le métier de... Enfin, je suis toujours juriste, hein, j'informe toujours sur les droits, mais avant d'être coordinatrice, donc j'étais juriste. Et puis ça fait depuis septembre 2022 que je suis au CDAD. Donc avant, j'étais encore aux études. Donc je commence à avoir un peu d'avoir de l'expérience, mais j'ai pas non plus 10 000 années d'expérience. Par exemple, la juriste du CDAD, Madame Crétois, qui fait des permanences dans le CDAD, elle était avocate auparavant et elle était aussi, alors elle parlerait mieux que moi, mais elle a fait aussi des études pour être conseiller financier dans une banque. Donc voilà, elle a plusieurs aspects, finalement le droit c'est un peu touche à tout. Et puis moi après forcément, avant d'être dans le cadre de mes études, j'ai passé aussi mon diplôme de sauveteur. Donc j'ai fait mes grandes vacances en tant que sauveteur. Voilà.
Est-ce que aimez-vous votre métier et pourquoi ?
Ah oui, moi j'adore mon métier. Et pourquoi ? Parce qu'en fait c'est extrêmement varié. Parce que voilà, une journée je peux faire de l'administratif, ce qui finalement me plaît beaucoup. Quand j'étais plus jeune, l'administratif, ah non c'est pas possible. Et puis en fait j'apprécie énormément. Peut-être 2 heures après, je peux être avec des jeunes, faire un procès fictif par exemple avec des primaires. Et puis 2 heures après, je peux être à la maison d'arrêt avec des détenus pour les informer sur leurs droits. Donc je dirais que c'est vraiment ça la force de mon métier, c'est la polyvalence. Et le fait que ce soit extrêmement varié. Donc c'est pour ça que tous les jours, comme aussi dit ma collègue, on est extrêmement contente de se lever et d'aller travailler. Donc l'aspect polyvalence, mais finalement en fait ce qui me rend la plus heureuse, c'est d'aider les gens finalement, les usagers qui ont des besoins, et on voit le besoin et on est quand même très satisfaite du travail qui est effectué et on voit le retour des différentes personnes.
Et quel est le salaire moyen de cette expo ?
Alors après, le salaire moyen, c'est compliqué parce que d'un CDAD à un autre, ça diffère, parce que chacun a son expérience, mais le salaire moyen, je dirais, si on part... Vous voulez du brut ou du net? C'est plutôt brut ou net? Avec les charges ou sans les charges? Je vous dis... vous voulez le net peut-être, comme
le
ça
net, oui,
comme ça, ouais, vous vous rendez compte. Ouais. On est au minimum, au moins 2000.
2000? Wow.
Je dirais... Parce qu'au début, ouais, au début, je dirais entre 1800 et 2000 net. Au début, et après avoir l'évolution.
Oui,
je dirais le début.
Pas mal. C'est quand même pas mal.
Ouais, ça va. Oui. Ça va.
Pour le début, je trouve.
Pour le début, voilà, c'est ça. Mais avant, il faut quand même une certaine, on va dire, une bonne expérience du terrain pour pouvoir y accéder après.
Avez-vous d'autres projets professionnels ?
Bah, moi, j'aimerais bien intégrer la magistrature. Donc, magistrature, c'est les juges. Si vous voyez, vous êtes déjà venu au tribunal ou pas du tout ?
Non, pas du tout. Non.
Donc, pour préciser, magistrature, c'est tout ce qui est les juges que vous voyez en audience, si vous avez peut-être déjà vu à la télé, et aussi le parquet, donc c'est-à-dire les procureurs, les substituts. Enfin, voilà. Donc, c'est eux qui, au niveau des magistrats du siège, donc ceux qui décident, c'est eux qui décident de la décision, et le parquet, c'est lui qui représente la société. Donc, moi, j'aimerais bien un jour intégrer donc, l'École nationale de la magistrature. Et pour pouvoir être magistrate et pour pouvoir donc rendre la justice dans les tribunaux.
D'accord, merci.
D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de journée et au revoir.
Merci.
Sabrina, Grégory, et je suis à Camille Claudel et j'ai 16 ans.
Ok, je m'appelle Enguerrand Fressanjas, j'ai 16 ans et je suis élève au lycée Camille Claudel.
Bonjour.
Bonjour.
On vient du lycée Camille Claudel et on est là pour vous poser des questions sur votre métier. Du coup, quel est votre métier ?
Alors, moi je m'appelle Dilali, je suis compositeur, producteur de musique également. Et quelquefois auteur.
Quelles sont les tâches que vous devez faire dans votre métier ?
Alors moi, mon métier consiste à composer des œuvres d'instrumental, donc pour que des artistes puissent chanter par-dessus en fait. Donc pour la partie composition, c'est ça, donc faire des instrus. Après, les chanteurs posent en studio sur ces instrus-là. Après, il y a une partie de production où je vais faire de l'enregistrement de ces artistes-là, donc sur... soit mes propres productions, soit des productions d'autres personnes, donc faire de l'enregistrement. Et pour la partie auteur, ça va être le fait d'écrire des textes pour des rappeurs notamment.
Quel rappeur vous avez pu rencontrer ?
Moi j'étais beaucoup en collaboration avec le label Ambition Music de Niro. Et donc pas mal d'autres rappeurs. Dans la même équipe, Nino B, etc., Zesso. Bref, le label, quoi. Et d'autres producteurs aussi, également. Okay.
Est-ce que vous vous questionnez sur l'avenir de votre métier, surtout avec l'IA qui fait des sons
Bien sûr. Comme toute nouvelle technologie, à mon sens, en tout cas, à mon avis, comme toute nouvelle technologie, il y a du bon et du mauvais. Mais il faut toujours pouvoir en tirer le meilleur et pas forcément combattre, parce que c'est quelque chose qu'on n'arrivera jamais à combattre. Donc le but, c'est de s'adapter et de plus voir ces technologies comme des outils, les adapter à nous, nos manières de travailler, et faire en sorte que ça nous aide plus que ça nous tue.
Et quels sont les aspects les plus difficiles et les plus faciles de votre métier ?
Pour les plus difficiles, je dirais la découverte de certains besoins d'artistes. Donc il y a des artistes qui ont des besoins très spécifiques et qui ont des exigences très hautes, qui fait qu'on est toujours obligé de s'adapter au maximum. Et parfois c'est un peu plus compliqué, donc faut faire plusieurs essais. De toute façon, c'est rarement, en tout cas du premier coup. On fait en sorte de commencer un travail. Et dans l'idéal, en tout cas, c'est de le faire en présence de cet artiste-là. Donc on continue le travail, etc. Et puis on fait en sorte qu'il participe au maximum. Que par exemple, si on commence un projet, qu'il soit là du début à la fin, pour pouvoir nous arrêter si besoin, si là on n'est plus dans la bonne direction artistique, ou s'il y a besoin de faire des changements, si ça convient pas tout simplement. Et donc faire ce jeu éviter de faire ce jeu de ping-pong où on avance au maximum sur un projet et après en fait on doit revenir sur des points essentiels, limite tout refaire, etc. Donc ça c'est les points les plus compliqués, parce que faut vraiment déceler tout de suite la nature du projet, le fait que chacun a des exigences, des attentes et puis un style à découvrir. Donc ça pour la partie, enfin pour le côté difficile entre guillemets, hein. Et le plus facile, le plus facile je dirais, c'est de garder la motivation pour le faire, parce que c'est un métier que j'aime et que tous ceux qui font aiment logiquement. Et le plus facile, comme je dis, c'est de garder cette motivation, parce que c'est un truc qu'on aime faire, donc voilà.
Quelles sont vos études que vous avez faites pour faire ce métier ?
Pour faire ce métier, j'ai pas fait d'études. Moi, j'ai fait des études en parallèle, donc qui n'ont rien à voir avec ce métier. Donc, j'ai fait un bac pro commerce. Ensuite, j'ai fait un BTS NDRC au CFA de Blois, donc en alternance. Ensuite, j'ai fait un bachelor de responsable de développement commercial à la CCI Campus Centre, donc toujours en alternance. Et j'ai fait un master commerce marketing, spécialité entrepreneuriat, à l'ESG Tours. Encore en alternance. Donc ça c'est un cursus qui n'a rien à voir avec la musique. Et dans le domaine de la musique, j'ai été autodidacte. Donc j'ai commencé tout seul avec des tutos, avec ce que je pouvais trouver comme information sur internet. Et de fil en aiguille, donc en me professionnalisant, etc., j'ai pu rencontrer des nouvelles personnes qui m'ont formé, qui m'ont aidé en tout cas à avancer, donc avec des conseils, avec des astuces, etc. Et puis une formation continue. Donc on va dire que dans ce genre de métier, on est constamment en recherche de nouvelles compétences, tout simplement en fait, le fait d'être en formation continue, quoi.
Est-ce que ce métier-là, vous voulez le faire plus jeune, ou c'est sous le coup de...
J'ai toujours été un peu dans ce milieu-là sans être dans l'envers du décor. C'est qu'en gros, j'ai toujours beaucoup écouté de musique, j'ai toujours beaucoup été attiré par la manière dont fonctionnaient les choses. Et donc, de fil en aiguille, forcément, j'ai commencé à m'intéresser à la production musicale. Je me demandais en fait comment on faisait pour faire de la musique, comment ça se passait, qui fait quoi en fait, tout simplement. Et après j'ai eu l'occasion en fait de pouvoir commencer en fait à produire moi-même. Et donc je disais que j'ai toujours été dans la musique. Donc le fait d'avoir cette envie en fait de produire et de comprendre comment ça fonctionnait, ça m'a permis un jour de commencer la composition musicale, donc avec les rudiments entre guillemets, donc des logiciels très basiques. Aucune technique, aucune formation, ni de solfège, ni rien du tout. Et après, forcément...
Est-ce que vous aurez aimé des conseils, et peut-être que vous en avez à partager pour celle qui veut faire ce métier ?
Alors ouais, j'ai des conseils à donner. Je pourrais... c'est des conseils, on va dire, qui touchent à tous les métiers artistiques et de création. Donc forcément, au début, c'est de s'accrocher, parce que quand on commence ces métiers-là, en général, on n'a pas vraiment les bonnes bases, mais c'est pas une chose qui est censée nous arrêter en fait dans notre manière de voir les choses, parce que ça reste un art et ça reste très subjectif. Donc, on peut prendre des avis de professionnels concernant des choses qui sont très techniques et des choses où on va dire il y a des règles établies. Mais sinon, dans le fond, il faut toujours qu'on s'accroche en fait à ce qu'on fait et qu'on croit en ce qu'on fait, parce que comme j'ai dit, dans le métier artistique, c'est subjectif en fait. Il y a des règles, mais il y a aussi le fait qu'on peut développer son propre style, pouvoir créer en fait de nouvelles choses. Parce que quand je prends par exemple dans le milieu de la musique, il y a beaucoup d'artistes qui au début étaient détestés et aujourd'hui qui sont au rang de légende, quoi. Parce que ils sont accrochés à ce qu'ils faisaient et parce qu'ils ont apporté leur propre patte et leur propre style. Donc ce serait toujours de s'accrocher, surtout dans les débuts, parce que c'est là où on doit faire nos preuves et surtout là où on doit vraiment se construire.
Et du coup, est-ce que vous êtes fier de certains projets que vous avez faits ? Est-ce qu'il y en a qui sont assez connus ?
Ouais, bien sûr, il y a pas mal de projets qui sont sortis, donc qui sont sur les plateformes de streaming. Après, c'est des projets, on va dire, où ça va de soi. Il y a pas, je suis fier de tous mes projets, mais il y a des projets, on va dire, que j'ai plus portés, qui ont été plus personnels entre guillemets, et donc qui m'ont forcément un peu plus touché, quoi. Je parle notamment d'un projet qu'on a réalisé donc avec la ville de Blois et la fabrique, où on a pris tout un groupe de jeunes qui voulaient se lancer dans la musique. Certains étaient expérimentés, certains pas du tout, étaient en totale découverte. Et donc on a mis en place ce projet où on a réalisé en fait une résidence, ce qu'on appelle une résidence. En fait, on a loué une maison, on est parti pendant un week-end, donc 2 ou 3 jours. Où on a entièrement composé un projet là-bas, donc une sorte d'EP, en fait, un petit album, si je peux me permettre le terme. Et donc c'était en totale composition sur place. Donc c'est une manière de travailler, en fait, qu'on fait beaucoup au niveau professionnel. En fait, on s'enferme dans une maison, c'est une sorte de séminaire, en fait, où on va tout composer, on va tout écrire, on va tout maqueter. Et ensuite, après ça, une fois donc on avait toutes nos pistes, on est parti poser en studio. Donc on les a accompagnés en studio professionnel, donc au studio Pôle Nord à Blois, où ils ont pu, pour certains, découvrir totalement les manières de travailler professionnelles, les conditions professionnelles. Et après ça, donc une fois qu'on avait tous les morceaux d'enregistrés, donc il y avait une longue étape de mixage, et enfin donc une représentation sur scène. Donc à la fabrique, où chaque jeune avait l'opportunité donc de présenter ce qu'il avait fait sur scène devant un public, et après à la fin repartir avec un CD physique, avec tout le projet, en fait, de manière physique, l'avoir dans les mains, quoi. Donc ça, c'était quand même une petite fierté, parce que on a pris un groupe de jeunes qui débutaient totalement dans la musique, pour certains en tout cas. Il y en avait qui étaient expérimentés, mais ceux qui débutaient, en tout cas, c'était beau, parce qu'on les a mis dans des conditions professionnelles dès le début. Et ça, c'est des occasions qu'on n'a pas toujours au moment où on commence. Donc c'était un beau projet. Là, on va faire une deuxième version de ce projet, donc le P2 de la fabrique, qu'on va faire cette année normalement.
Et pour ce projet-là, il faisait de la musique comme il voulait, du rap, de la pop, ou c'était un style précis ?
Non, c'était surtout les mettre en confiance, faire en sorte qu'ils s'expriment, en fait, qu'ils fassent leur art, tout simplement. Donc certains, c'était du rap, certains, c'était de la pop, certains, c'était de la dancehall, tout ça. Donc ça dépend, en fait. Chaque personnalité avait son propre style. Il y en avait qui faisaient du rap old school, donc avec des instrumentales qui étaient un peu style années 90. Donc chacun avait son petit style. Le but, c'était de les mettre dans une bulle et dans un confort, pas les sortir de cette zone où ils auraient été mal à l'aise. C'était pas le but, et c'est pas l'intérêt pour eux. Donc ouais, c'était multi-style, chacun son propre style, et ça qui fait la diversité du projet.
Et du coup, votre métier, c'est plutôt un métier passion, ou il vous permet de vivre ?
C'est un métier qui permet de vivre. Mais aujourd'hui, on va dire que je l'ai mis au rang de passion. Pour l'instant, on va dire que les projets que je fais, c'est des projets de cœur, entre guillemets. Donc il n'y a pas de but financier derrière. À l'heure actuelle, c'est pas des projets qui me... comment dire ? Où il y a un but financier, quoi. C'est vraiment la passion, le fait de partager, de créer. Et voilà, tout simplement.
Merci pour cette interview.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Bonjour, je m'appelle Amoucha Asma, en 3e B au collège Michel Bégon.
Je m'appelle Elirissi Amina, je suis au collège Bégon en 3e aussi. Pour commencer, bonjour et merci de bien vouloir répondre à nos questions.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît ?
Alors, je m'appelle Nicolas Terrien, je suis journaliste radio et presse écrite.
En quoi consiste exactement votre métier ?
Mon métier, c'est donc reporter, présentateur. Donc mon métier essentiellement, c'est d'aller sur le terrain, réaliser des reportages qui seront diffusés donc soit à la radio, soit donc dans des journaux, des magazines.
D'accord. Quelle formation professionnelle avez-vous suivie pour exercer votre métier ?
Moi, mon parcours est un petit peu atypique. En général, lorsqu'on souhaite devenir journaliste, l'idéal, c'est vraiment la voie royale, hein. C'est pas du tout la seule voie, mais entre guillemets, ce qu'on appelle la voie royale, c'est une prépa, Sciences Po derrière, et puis après une école de journalisme parmi les 11 ou 12 reconnus par la profession, car il y a des écoles de journalisme qui ne le sont pas forcément, mais on peut être journaliste aussi avec un parcours beaucoup plus classique, en passant son bac, en allant en fac, en prenant des spécialités, je sais pas, philo, histoire ou sciences sociales. Et puis après, intégrer donc une école de journalisme par le biais des concours, ou une école non reconnue, ou tout simplement, peut-être même sans diplôme, parce que c'est un métier aussi qui peut se faire sans diplôme, juste en faisant des stages, en faisant ce qu'on appelle des piges, c'est-à-dire travailler pour des journaux, proposer des articles, et puis commencer à faire un petit peu son réseau. Donc il y a une voie royale, et puis il y a de multiples voies. Moi, j'ai plutôt choisi par les multiples voies pour aboutir à la voie royale.
Est-ce le seul métier que vous avez exercé ?
Non, c'est pas le seul, parce que justement, moi, de par ma formation, j'ai travaillé dans l'hôtellerie-restauration avant, j'ai été sommelier, après j'ai fait des études de lettres classiques, avant de rebifurquer vers le journalisme. Moi, le journalisme, c'était mon boulot d'étudiant, c'est-à-dire qu'au lieu de bosser dans un fast-food, j'allais faire de la radio le week-end, et puis de fil en aiguille, et les choses se sont présentées de telle manière à ce que, quelque part, mon job d'étudiant est devenu mon métier. Voilà, donc j'ai dû faire un choix et j'ai fait celui-là. Et quelques années plus tard, juste quelques années, allez, on va dire, je le regrette pas.
Et vous aimez votre métier ?
Ah oui, la preuve, c'est que je continue à le faire. Après, j'allais dire quelques années, mais enfin bon, je pourrais même parler de quelques décennies. Oui, 25 ans après, pas de regrets.
Quel est le salaire moyen pour votre profession ?
Alors le salaire moyen, j'avoue que je le connais pas, mais bon, ce sont des grilles salariales donc qui émanent soit de la convention collective des journalistes en ce qui me concerne, ou de la convention collective de la radiodiffusion, ce qui peuvent concerner ceux qui travaillent dans d'autres métiers que journalisme. Moi, c'est la convention collective des journalistes, donc après ça dépend de sa qualification, si on est reporter, présentateur, si on est rédacteur en chef, si on est technicien, si on est j'avoue que je connais pas les grilles. Je crois que la dernière fiche de paye que j'ai dû ouvrir me concernant, ça doit être peut-être à 2 ou 3 ans. Voilà, je les sortirai quand on me demandera après temps de mes droits à la retraite. Mais là, pour l'instant, c'est vrai, je regarde pas trop. Je suis désolé, hein, c'est un petit peu une réponse à côté, mais c'est pas très précis, mais je saurais pas vous dire. Mais je pense qu'un journaliste débutant, en général, en sortant de l'école, il doit commencer peut-être dans les... Alors, je vais parler en net parce que brut parle peut-être pas forcément, même si quand on parle de salaire, on parle plutôt en brut. Mais je pense qu'on doit être aux alentours de 1500 net. Enfin, si on fait ça pour l'argent, il faut mieux faire un autre métier.
Oui. Vous avez d'autres projets professionnels ?
D'autres projets professionnels, je travaille sur d'autres champs aussi. Je fais pas mal d'animation, modération, table ronde, pas mal de choses comme ça. Et puis après, quelques conseils de stratégie média, mais rien à voir avec le métier de journaliste. Je sanctuarise bien les deux. Quand on est journaliste, c'est toujours très difficile d'avoir des activités annexes, parce que le journalisme, c'est un état d'esprit, en fait, où on... Comment dirais-je ? J'allais dire on critique. Non, on met en perspective à peu près tout ce qu'on nous dit. Voilà, donc on essaye d'être, je dirais, le plus neutre possible, de manière à ne pas être pris en défaut lorsque on souligne quelque chose qui nous interroge. Tout ce que je fais à côté est toujours sous le prisme du journalisme, c'est-à-dire que ça doit correspondre. Je disais précédemment que je fais des animations de table ronde, certes, je vais faire une animation de table ronde peut-être pour parler d'un sujet d'envergure publique. Ça peut être la santé, ça peut être la formation, ça peut être l'éducation. Mais par contre, je ne ferai jamais de table ronde catégorielle pour un syndicat, par exemple, ou pour un parti politique, ou pour une personnalité, encore pire. Voilà. Donc tout est toujours sous le prisme du journalisme, avec quand même un intérêt général.
Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne fin de journée à vous. Au revoir.
Au revoir.